Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dorlac, je suis très contente de vous retrouver, je suis surtout ravie de faire encore et toujours partie de cette équipée sauvage et fabuleuse. Je vois Virginie Le Hérou, je vois Anita Poiret, je pense très fort à Arnaud Langlois-Mérine qui ne peut pas être là aujourd'hui et qui en est fort désolé, tout comme je pense très fort à Marie-Laure de Cazotte, notre bien-aimée présidente de l'association Une île des auteurs qui ne peut pas non plus être avec nous aujourd'hui, qui vont arriver très vite bientôt sur l'île. Je pense à tous et je les remercie encore de contribuer à essayer de faire vibrer nos cerveaux. De deux façons, vous le savez, il y a bientôt la Biennale des auteurs qui a été créée par Marie de Henzel, à qui je pense bien sûr aussi, qui aura lieu le 11 août de 10h à 14h. N'oubliez pas de venir un petit peu en avance, parce que vous voyez que cette histoire de passe sanitaire retarde un petit peu les choses. Un petit livret que nous avons commis gratuit qui vous donne un petit résumé des différents ouvrages. Il y en a 24 cette année, il y a 13 nouveaux auteurs qui, vous le savez, écrivent, commettent leur ouvrage à un petit bout ou pour toute partie sur l'île-dieu, mais ce sont des livres très éclectiques. Voilà, donc il y a cette animation de la Biennale des auteurs qui va arriver bien sûr, et puis aujourd'hui ce qui nous rassemble, la dynamique, un lieu, une rencontre. Une idée, une invention, née peut-être autour d'un café, c'était au café de l'Escadrille, entre Anita Poiret et Arnaud Langlois-Mérine. L'idée, et je voudrais vraiment le dire en préambule pour le thème qui nous préoccupe aujourd'hui, l'idée est de profiter du fait que, bien sûr, nous sommes tous brillants, il y a pas mal de gens brillants sur cette île, mais que certains portent des aventures professionnelles qui peuvent donner lieu à éclairage, à nous instruire sur ce qu'ils font et peut-être aussi à nous apprendre ce qu'ils pensent de la marche et de la menée du monde. C'est un peu ça, un lieu de rencontre. Ce n'est pas un lieu de polémique, c'est un lieu où on prend son temps, sous les chênes, dans cette prairie de la Citadelle qui nous est aimablement proposée et prêtée par nos partenaires qui sont la mairie et aussi la maison de la presse. Je n'oublie pas les partenaires et je n'oublie pas non plus Radio Neptune qui va retransmettre bien sûr ce podcast. Donc un temps d'échange aussi. Préparez vos questions, pensez à vos questions. Il y aura une bonne demi-heure de questions, ça c'est certain. Mais avant tout, je voudrais qu'on l'écoute. Donc bonjour à vous, Damien Vielle. Merci beaucoup d'accepter ce moment, car vous qui portez la destinée de ce fameux Twitter en France, vous êtes un homme dont la parole est finalement assez rare. Parce que pourquoi ? Quand le petit oiseau sort, souvent c'est la déferlante. Twitter, est-ce un média ? Twitter, va-t-il tuer la démocratie, comme d'aucuns l'ont écrit en titre d'un ouvrage aux éditions Les Arènes. Petit clin d'œil à certains qui sont aussi concernés par l'île-dieu aux éditions Les Arènes. Tout de suite, quand on balance le mot Twitter, ce que je fais depuis quelques semaines en disant « ben oui, avec un lieu, une rencontre, il y aura un débat », oulala, ça y est, les griffes sortent, les becs piquent en me disant « mais c'est affreux, mais c'est horrible, au contraire, c'est génial ». Donc on va essayer de dénouer ensemble ce lien, peut-être haine, amour, amour d'une forme de facilité, amour de l'envie, de conversation et haine pour la déferlante, le harcèlement de ce que évidemment ce genre de fil peut donner. Mais pour pouvoir dénouer ce fil, il faut comprendre comment ça se passe, comprendre qui sont ces gens qui organisent tout ça. Et Damien Vielle accepte aujourd'hui de nous en parler. Alors ça fait combien de temps, Damien ?
Bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup d'être là, de vous être levé tôt pour certains. Si, j'ai vu des moins de 30 ans, des horaires assez peu habituels et pour vous et pour moi. Merci de cette invitation, c'est vraiment un grand privilège pour moi toujours de pouvoir oublier encore une fois que je suis en vacances et d'avoir toujours cette impossible prise de recul dans ce métier qui est assez fascinant et extrêmement prenant. Ça fait, je vais essayer de parler encore plus près. Ça fait, je vais entamer bientôt ma sixième année chez Twitter à la direction générale de l'équipe française et de l'entité française de Twitter, qui est une petite entité par la taille. On est juste une cinquantaine de personnes à Paris, une entité un petit peu plus intéressante en termes de business et une entité encore plus intéressante en termes de je vais appeler ça, quantité de d'emmerdes à gérer, de soucis et de problèmes de régulation et de problèmes de relations avec les écosystèmes. Mais c'est un pays qui est fascinant. Peut-être dire qu'auparavant, j'ai passé un peu plus de 5 ans chez Google, où je dirigeais les équipes de YouTube en Europe à l'époque. L'idée était de monter le business YouTube et les affaires YouTube dans 35 pays en Europe du Sud, en Europe de l'Est, en Moyen-Orient, en Afrique, fondé sur une bonne relation entre l'écosystème des créateurs de contenu sur YouTube, l'écosystème des gens qui faisaient la régulation et des États et des politiques, et puis l'écosystème de tous ces gens qui allaient financer, c'est-à-dire les marques, les annonceurs, les grandes entreprises. Essayer de créer des écosystèmes vertueux dans tous ces pays, ce qui m'a donné l'occasion, moi, à ce moment-là, d'assister à des événements intéressants, Printemps arabe, la révolution en Ukraine, tout un tas d'événements en Turquie, qui ont réussi à finalement m'ouvrir un petit peu les yeux avec beaucoup de modestie sur la place et la position des plateformes et des technologies dans la vie démocratique des pays, dans la place qu'occupent ces plateformes dans la vie des journalistes, dans la liberté d'expression, enfin dans les problématiques de liberté d'expression à travers le monde, et prendre conscience de l'extrême complexité de ces sujets aujourd'hui et de leur importance croissante sur nos vies quotidiennes. Voilà.
Alors au commencement, l'idée, c'est de permettre de proposer une conversation presque mondiale. Au commencement, l'idée, elle est belle, elle est positive. Alors, je ne vais pas faire le « qu'est-ce qui s'est passé ?» et ce serait un petit peu trop simple. J'aurais d'abord que tu puisses nous expliquer quels sont les rouages techniques derrière, quand on ne sait pas comment ça marche. Quand je commence à taper ce qui était au début 140 signes, quand je mets des hashtags, etc., qu'est-ce qui se passe? Il y a un automate, il y a une machine, il y a des humains. Reprenons le béaba.
Alors, je vais poser une question. Qui ici est utilisateur de Twitter? Donc on a une très grande majorité de non-utilisateurs. Donc il va falloir revenir un petit peu aux bases et aux fondements. Lorsque moi j'arrive chez Twitter il y a 5 ans et demi, 6 ans, c'est le moment où Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, revient à la barre aussi. Et il faut à ce moment-là qu'on redéfinisse fondamentalement l'objet de cette entreprise, l'objet de cette plateforme, dont on ne sait pas bien à l'époque, il y a 5 ans et demi, 6 ans, comment est-ce qu'un jour elle gagnera ou pas de l'argent, comment est-ce qu'un jour elle aura un métier distinct et différent des autres plateformes qui étaient à l'époque Facebook, Instagram, LinkedIn et les autres. Et que l'évidence de l'usage de Twitter, c'est, et de son métier, de son purpose, comme on dit aujourd'hui dans l'univers des entreprises, est unique. C'est Twitter sert la conversation publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire servir la conversation publique? Ça veut dire que Twitter dit ce qui se passe dans le monde, ce dont les gens parlent, et permet d'ajouter à tout ça une couche de conversation. Je regarde un match de football. Regardez ce qui se passe sur Twitter pendant un match de football. Regardez ce qui se passe sur Twitter pendant une émission de Koh-Lanta. Vous ne regarderez plus Koh-Lanta de la même manière. Regardez ce qui se passe sur Twitter quand il y a effectivement un débat au Parlement, quand il y a un tremblement de terre quelque part, quand il y a... Les tremblements de terre, généralement, ça a été un des grands actes faits fondateurs de Twitter, au-delà de l'amérissage de l'avion sur l'Hudson, dont certains d'entre vous se souviennent sûrement, c'était d'annoncer les tremblements de terre au sud de la Californie, quand ils arrivaient au nord de la Californie, et ce qui explique aussi pourquoi Twitter est aujourd'hui la première plateforme sociale au Japon, largement devant Facebook, largement devant toutes les autres plateformes. Les Japonais ont une terreur absolue de ne pas savoir l'information et de ne pas savoir le tsunami, et qui fait de Twitter cette plateforme de conversation, mais une plateforme de conversation qui dit ce qui se passe dans le monde. Et vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui un dirigeant d'entreprise, un journaliste, ouvre Twitter pour savoir ce qui se passe à un instant T. Moi j'ai pris mes fonctions il y a 5 ans et demi, un mois avant, les attentats du Bataclan. Et quand nos systèmes se sont mis en alerte, quand les premiers coups de feu ont été tirés dans le 11e arrondissement de Paris, qu'il a fallu, en plein dîner, que j'ouvre mon ordinateur pour activer des procédures de sécurité, quand il a fallu qu'on commence à relayer les informations qui nous étaient fournies par les instances officielles, par le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, par la préfecture de police de Paris, quand il a fallu commencer à envoyer des messages à nos collaborateurs qui étaient dans le 11e, en disant « mais branchez-vous sur Twitter, il se passe des choses ». Quand le soir, il y a eu un hashtag qui était le hashtag porte ouverte, parce qu'il fallait que les gens trouvent à se loger dans Paris, vous prenez la mesure de la puissance de cette plateforme et de sa responsabilité dans la vie des gens, dans un certain nombre de cas de figure, qui vont être à la fois la réaction à l'actualité, qui vont être parfois le plaisir, l'humour, et qui vont être aussi la responsabilité qu'on a aujourd'hui quand la SNCF nous utilise pour annoncer que des trains sont en retard, que le patron de Danone, et on y reviendra tout à l'heure, explique à ses salariés, à la FNSEA, à son écosystème, eh bien, quels sont les engagements de Danone. Et puis, l'usage qu'on connaît en France, qui est beaucoup plus originel, hein, c'était l'usage par l'univers des journalistes, par l'univers des politiques, de cette plateforme, qui était finalement la capacité qu'avait tout le monde de disposer d'un microphone ouvert, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains en font un très très bon usage. Je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que l'usage que quelqu'un comme le président de la République, quelqu'un comme... il y a des gens qui en font des très bons usages, d'autres en font des nettement moins bons usages. Le sujet de la citoyenneté et de la démocratie, c'est le sujet de l'usage de Twitter et c'est l'usage et le sujet de notre responsabilité à nous, plateforme, dans la capacité qu'on donne à chacun de pouvoir utiliser Twitter pour parler, pour s'exprimer, pour être cette plateforme, effectivement, de la conversation. On ne peut pas être une plateforme de conversation si jamais à chaque fois que vous voulez dire quelque chose, on vous empêche de le dire, on vient vous attaquer, on vient vous empêcher finalement de pouvoir vous exprimer avec sérénité. Et tout l'enjeu de Twitter aujourd'hui, c'est d'être à la fois la plateforme de l'expression et de la discussion et de la conversation, cette agora publique qui permet à chacun d'être entendu en temps de crise, en temps de révolution, en temps de paix, en temps de débat. On est une plateforme du débat. Et puis, c'est aussi une responsabilité qui est celle, comme on est finalement l'expression de ce qui se passe dans le monde, d'un monde qui est polarisé, eh bien, il faut qu'il y ait des règles. Et ces règles, ça fait partie de nos enjeux à la fois éthiques, technologiques, que de pouvoir les mettre en œuvre. Donc Twitter a une mission qui est de servir la conversation publique. Il y a des règles qui sont en constante évolution, puisque le monde change. La manière dont on doit réguler aujourd'hui la parole publique est extrêmement différente de la manière dont il fallait réguler la parole publique il y a 5 ans. Je parle pour en témoigner. Ce qui nous oblige à être en contact permanent avec des gens qui savent comment évolue le monde. Je passe un temps extrêmement important, moi, avec le CRIF, avec la LICRA, avec l'Inter-LGBT, avec ces gens. On a des équipes d'affaires publiques en France qui passent leur temps à écouter. On a des groupes de contact avec les autorités, avec un certain nombre, pour savoir comment évolue le monde. Il y a Xavier Dordor est là, un de ses journalistes, CB News, avait écrit un jour l'intelligence humaine n'ira jamais aussi vite que la bêtise humaine. Et je pense que tous les algorithmes qu'on pourra créer pour défendre et pour protéger la liberté d'expression dans le monde n'iront jamais aussi vite que la capacité des gens à imaginer des solutions pour détourner ces sujets. Donc on court après, on le fait avec beaucoup d'humilité. On le fait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie. Aujourd'hui, Twitter a des règles qui interdisent un certain nombre de choses, violemment, le harcèlement, de tenir des propos qui incitent à la haine et à la violence, à la discrimination. Tout ça évolue très vite et on met à jour nos règles une dizaine de fois par an en écoutant le monde associatif, en écoutant l'actualité, en écoutant ce que les gens veulent. Et puis par ailleurs, derrière, il y a des moyens de mettre en œuvre ces politiques de surveillance du réseau qui sont des combinaisons à la fois de technologie qui fait qu'aujourd'hui, 65% des tweets en infraction sont enlevés sans que la personne victime ait même à le voir sur son fil. Donc la machine enlève automatiquement 65% des tweets en infraction. C'était 0% il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est 65% de machine learning qui nous permet aujourd'hui d'intervenir. On sait très bien faire sur les images, sur les vidéos. ont réussi à éradiquer quasiment complètement les problèmes de pédopornographie, les problèmes de lutte contre le terrorisme sur nos plateformes aujourd'hui, parce que c'est souvent des images et de la vidéo. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est d'avoir un jugement sur l'agressivité d'un propos, sur le fait qu'un propos enfreigne ou pas nos règles. Et ça, ça a été nos gros investissements. On est une petite société, on est 4000 personnes dans le monde, donc on est tout petit, on fait moins de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on commence à gagner un petit peu d'argent parce qu'on a finalement un métier qui est très, très original, et on fait pas mal de croissance d'usage depuis un certain temps, un peu aidé par l'actualité en France et aux États-Unis et dans le monde. Mais par ailleurs, on est une entreprise qui investit énormément sur les moyens technologiques de permettre la conversation, de permettre d'être cette agora qui a des règles et qui sait les faire respecter et qui dote ses utilisateurs d'outils pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir intervenir sur les gens qui ne sont pas des gens bienveillants et qui ne sont pas les gens avec qui vous voulez entretenir cette conversation. Voilà.
Alors, j'ai trois questions. La première, est-ce que la langue française et ses subtilités représentent une difficulté particulière ? Là, c'est plus au patron de DG France, par rapport à la langue anglaise.
Laurence me demande si la langue française est particulièrement prise en compte dans cette manière d'étudier, de regarder ce qui peut se dire ou ce qui ne peut pas se dire. J'allais dire bien entendu, et en France plus qu'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu plus d'un an, on a discuté en France de quelque chose qui s'appelait la loi Avia, qui était, au-delà de toutes les décisions de réglementation pan-européenne, un renforcement, ou plutôt un raccourcissement des délais d'intervention qui étaient nécessaires et obligatoires pour enlever des tweets qui étaient en infraction, en anomalie. Donc la France s'est dotée de capacités de revue des tweets en infraction en langue française il y a un certain temps pour anticiper les évolutions réglementaires et aussi pour se mettre en position d'avoir en France des délais d'intervention extrêmement raccourcis et avec une transmission d'informations, de prévention des risques raccourcis. Et tout ça effectivement a été organisé en France, à la limite un petit peu plus qu'ailleurs.
Alors, autre point pour un mot qui n'a pas été dit, c'est qu'est-ce que, pour toi, l'économie d'attention ? C'est-à-dire, ce modèle qu'est Twitter doit s'appuyer sur un modèle économique. On dit beaucoup que le principe, c'est de faire en sorte que cette conversation dure le plus longtemps possible pour pouvoir ensuite générer un intérêt qui sera, lui, économique.
Alors, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que il y a les gens de Médiamétrie qui sont là dans l'assistance aujourd'hui pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Mais la principale idée, c'est que nous ayons une plateforme qui soit le plus utilisée possible. Et en France, on a beaucoup d'utilisateurs. On a des utilisateurs qui viennent nous voir extrêmement souvent et qui sont assez fans. Pour donner un ordre d'idée, dans le monde, Twitter a un petit peu plus de 200 millions d'utilisateurs quotidiens qui voient de la publicité et donc qui nous permettent de gagner un peu notre vie. Mais on estime qu'à travers le monde, 4 milliards de personnes voient des tweets chaque jour, puisque nos tweets sont cités dans des articles de presse du Figaro, puisque les tweets sont montrés dans les journaux télévisés, en fait, vous avez beaucoup accès à des tweets, même si vous n'avez pas vous-même un compte Twitter. C'est l'impact un peu étendu de cette plateforme. La manière dont on gagne de l'argent aujourd'hui chez Twitter, qui va nous permettre d'investir dans des serveurs, dans des machines, qui va nous permettre d'innover, puisqu'on est dans un monde dans lequel l'innovation va très vite, qui va nous permettre de payer des équipes partout dans le monde, c'est un modèle qui est essentiellement, fondamentalement basé sur la publicité, c'est-à-dire montrer effectivement de la publicité. Moi, c'est le plus beau complément qu'on puisse me faire, c'est « mais de quoi vous vivez chez Twitter ?» On vit de la publicité, mais si vous ne la voyez pas, ça me va bien, parce que vous considérez que c'est une publicité qui n'est pas intrusive, qui n'est pas mal élevée, qui ne vous arrête pas quand vous êtes en train de faire quelque chose, qui est pour moi plutôt une bonne manière de faire la publicité. En plus, si vous ne la voyez pas, ça veut dire que le message, finalement, vous concerne peut-être et que ça vous intéresse. Et une autre manière pour Twitter de gagner sa vie, c'est la donnée. On a entre 400 et 500 millions de tweets qui sont écrits dans le monde chaque jour. Et ce sont des tweets publics. Et c'est la grosse différence entre des plateformes comme Facebook, par exemple, qui a une très grande partie de ses conversations qui sont privées à l'intérieur de groupes dans lesquels vous n'avez pas accès, qui sont fermées. Alors que Twitter, aujourd'hui, c'est une plateforme publique. Vous écrivez un tweet, il est accessible et disponible à tous. Et ce qui fait, nous, d'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation des fausses informations, on parle des enjeux démocratiques, mais est-ce qu'une plateforme, finalement, qui permet à chacun de savoir ce que l'autre dit, est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de pouvoir lui apporter, finalement, la contradiction, le débat, pour pouvoir faire en sorte que les fausses informations ne deviennent pas vraies juste parce qu'on se les partage entre nous et qu'on finit par s'auto-convaincre qu'elle est vraie parce que et beaucoup de gens pensent comme nous. Et bien sur Twitter, le principe d'avoir une plateforme ouverte, dans un principe démocratique, c'est le fait de dire on peut venir porter de la contradiction à n'importe quelle idée que l'on a en face de nous. Et tout notre métier à nous, ça va être effectivement d'orchestrer ce débat, d'orchestrer cette contradiction. Et c'est vrai que dans la partie, j'ai peut-être clôturé la partie revenu qui n'est pas très intéressante, mais le fait est aujourd'hui que Twitter étant... mettant à disposition finalement 400 millions de tweets par jour, on devient le pouls du monde. Et aujourd'hui, on est très utilisé par des instituts d'études, on est très utilisé par des gens de marketing, on est très utilisé par des gens politiques qui viennent écouter finalement la manière dont les gens pensent. On n'est pas du tout représentatif de la population ni française ni mondiale, on n'a aucune ambition là-dessus, on le fait encore une fois avec beaucoup d'humilité, mais néanmoins, on permet aux gens de savoir ce qui se dit en ce moment sur ce qu'on pense de la politique agricole, ce qu'on pense du bleu dans les vêtements, ce qu'on pense, et ça nous permet effectivement d'être très utilisés en respectant absolument l'ensemble des règles RGPD, c'est-à-dire de protection de la donnée personnelle, puisque ce sont des tweets publics qui sont accessibles à tout le monde et ils sont aussi accessibles aux instituts d'études. Et ça nous permet à nous d'être aujourd'hui considérés comme un des principaux... On prend le pouls du monde et c'est pour ça qu'on est aussi très écouté et très utilisé par certaines entités journalistiques.
Ok, donc l'entreprise prend le pouls du monde jusqu'au jour où les règles évoluent, puisqu'on le comprend en fait, en 5 ans il peut se passer beaucoup de choses. L'arrêt est net, l'individu est sorti de Twitter. En l'occurrence, ça peut être un président, le président d'un pays. Pour lequel c'était la première fois, on entend dire et on lui fait signaler qu'il faut qu'il s'arrête. Alors, quelle est l'explication un petit peu de la chose? Ça s'arrête net comme ça ou il y a des warnings avant?
Alors, on a déjà à peu près tout dit là-dessus, mais c'est intéressant de faire aussi un peu de reprendre la situation un peu à froid sur cette histoire-là. Aujourd'hui, on est très utilisé par... L'ensemble des dirigeants politiques mondiaux utilisent notre plateforme. Certains très bien, d'autres un petit peu moins bien. On n'a pas à porter le jugement là-dessus. La manière dont l'ancien président américain a utilisé la plateforme, pour le moins originale, j'avoue qu'on ne s'attendait pas à être placé au centre de son schéma de pensée, de son schéma de décision. Hein. C'est quand même savoir qu'un certain nombre de ses collaborateurs apprenaient lors du jour de la réunion en lisant Twitter. Enfin, c'était quand même... on vivait dans un monde où on vivait dans la tête d'un président américain. C'est pareil très souvent. Et qu'il faut voir, en fait, ce qui s'est passé, non pas comme une décision un jour d'une plateforme qui dit ce qui était bon hier est plus bon aujourd'hui, au revoir monsieur, et ça suffit. Il faut le voir vraiment comme un processus, une évolution qui a fait... Lui a beaucoup évolué dans ses prises de parole jusqu'à... enfreindre une règle pour nous qui est fondamentale, qui est l'appel à la violence qu'il a formulé, ou les appels à la violence qu'il a formulé à l'occasion de l'attaque du Capitole. Ça, c'est une réalité. Et de l'autre côté, il y a une réalité d'une évolution, nous, de nos modes de protection, de nos modes de réflexion, qui fait qu'on a commencé un jour à mettre un petit cartouche devant un de ses tweets en disant c'est l'avis du président américain, il enfreint nos règles, ses propos enfreignent nos règles, néanmoins pour des notions historiques et politiques, on doit laisser le tweet, vous pouvez cliquer pour le voir, mais vous pouvez ne pas cliquer pour ne pas le voir, on vous prévient qu'il enfreint nos règles, ou alors on a remis un cartouche en disant ça c'est une opinion, on pense que c'est une opinion manipulée, donc on vous oriente sur le même tweet, on vous oriente vers des sources d'informations différentes pour que vous puissiez vous faire votre jugement sur la vérité ou pas, qui est énoncé dans ce tweet. Et puis après, on est vraiment monté jusqu'à la remise en question des résultats des élections américaines, sur lesquelles on est passé sur des cartouches qui étaient plus présents, jusqu'à prendre un jour une décision, qui était une décision fondée sur le fait que le président américain avait enfreint la règle pour moi ultime, enfin pour nous ultime, qui était la règle de l'incitation à la haine et à la violence. Voilà.
Pourquoi ? Quand on parle de Twitter, les équipes, et toi en l'occurrence aussi, vous vous évertuez encore à nous dire que non, ce n'est pas un média. Alors que nous, on veut voir en Twitter quand même un média supplémentaire.
Alors c'est une très bonne question qui va au-delà des problèmes de régulateurs et de... les plateformes ont des droits et des devoirs que n'ont pas... Enfin non, les médias ont des droits et des devoirs que n'ont pas les plateformes et le sujet pour moi est pas celui-là. Le sujet est de dire, je regarde mon métier, je regarde notre plateforme dans son rôle et sa fonction avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Nous ne sommes rien sans les gens qui nous utilisent. En France, on a pris le pari d'un positionnement de la plateforme qui a été il y a 5 ans le fait de dire... Emmenons les journalistes avec nous, emmenons les hommes politiques, emmenons les institutions, emmenons les entreprises. On en a fait une plateforme finalement extrêmement sérieuse dans son usage et jusqu'à preuve du contraire, on a eu plutôt raison sur l'évolution de nos croissances d'utilisateurs. Aux États-Unis, Twitter est une plateforme, plutôt une plateforme d'entertainment qui cible plutôt les populations middle class. Vous regardez, hein, c'est en France, on parle plutôt sur Twitter de Bernard Pivot et des journalistes. Aux États-Unis, ce sont plutôt des chanteurs, c'est plutôt Kim Kardashian, Katy Perry, Justin Bieber qui sont dans le top des. En Angleterre, on a une plateforme qui est essentiellement utilisée pour du football. Et donc chaque pays et chaque patron de pays, et ça fait aussi partie des grands plaisirs pour moi, c'était de mettre en œuvre une stratégie de déploiement de la plateforme qui était très différente de la manière dont mes collègues et camarades utilisaient la plateforme dans d'autres pays et imaginaient leur positionnement. Le statut de média, donc cette humilité, elle consiste à dire j'organise finalement l'usage par les autres de notre plateforme. Nous, on a beaucoup accompagné les journalistes. On a appris aux journalistes du Figaro, on a appris aux journalistes des Échos, on a appris aux journalistes de TF1 à utiliser la plateforme pour en faire bon usage. On a accompagné les groupes parlementaires à l'occasion de chacune des élections. Autant vous dire que quand il y a eu des grands bouleversements au Parlement, comme ça a pu être le cas à l'occasion de dernières victoires en marche, ça a beaucoup, beaucoup de travail pour nous d'onboarder toute une nouvelle génération politique qui n'utilise pas nos plateformes depuis aussi longtemps que les plus anciennes générations politiques. Bref, on a aujourd'hui, nous, pour mission d'embarquer d'éduquer des gens qui vont utiliser Twitter et nous ne sommes pas un éditorialiste de contenu. Nous n'organisons pas les contenus sur Twitter. On fait évoluer l'expérience d'utilisation sur Twitter. C'est-à-dire que Twitter, contrairement à d'autres plateformes où on a beaucoup parlé des bulles d'enfermement parce que comme votre belle-sœur aimait ça, vous allez aimer ça. Et donc, si votre belle-sœur, elle disait les fraises, c'est bleu, bah, vous finissez par, de toute façon, voir que les fraises étaient bleues dans votre fil. Parce que nous, on n'est pas du tout... On est sur une plateforme sur laquelle, finalement, vous allez choisir les sources d'informations que vous voulez suivre. Je veux suivre Le Monde, je veux suivre Laurence Dorlac, je veux suivre le PSG. Et je vais retrouver dans ma timeline Twitter, dans le fait que les tweets soient accessibles, l'information à laquelle je souhaite accéder. Je suis patron du CAC 40, je vais avoir mes concurrents, les autres patrons, mes salariés. Je me construis moi-même le fil de mon actualité. Je suis moi l'éditorialiste de mon fil Twitter. Voilà la manière dont ça fonctionne. De plus en plus, on nous demande de simplifier l'usage de Twitter. C'est-à-dire, je suis fan de tennis, il ne faut pas que j'aille, moi, suivre chacun des joueurs, chacun des experts, c'est compliqué. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, on a quasiment 6000 recherches thématiques sur Twitter qui vont permettre de choisir le développement durable et d'avoir l'ensemble des tweets. Donc là, ce n'est pas de l'éditorialisation, parce que finalement, on va aller chercher, c'est juste un algorithme qui va chercher les gens qui font les contenus les plus pertinents par rapport à ce que... Mais en fait, vous faites le choix d'aller chercher une source qui est un petit peu plus organisée que d'avoir vos tweets. Donc, en fait, on est organisé et on a pour vocation à être juste une plateforme qui accueille des gens, y compris dans la manière dont aujourd'hui on discute de ce qu'est la fausse information et la propagation de la fausse information. Aujourd'hui, une fausse information, il y a beaucoup de débats, certains politiques nous disent c'est à vous d'organiser ce qui est une vraie et une fausse information. Mais mon Dieu, je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel c'est Mark Zuckerberg qui va décider ce qui est une vraie ou une fausse information. Et c'est la même chose pour Jack Dorsey, avec toute l'admiration que j'ai pour lui. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je veux vivre dans un monde dans lequel chacun a la possibilité de dire quelque chose, à partir du moment où ça n'enfreint pas de règles, et que chacun puisse lui apporter la contradiction, qu'on organise la contradiction en travaillant avec l'AFP, en créant l'AFP factuel, qui va venir chercher l'ensemble des tweets qui aujourd'hui propagent des informations incorrectes, démontrer, oui, les décodeurs du monde, allez regarder toutes ces sources d'informations, tous ces gens qui s'organisent pour démonter les fake news. C'est formidable, mais c'est pas, aujourd'hui nous on a organisé ça, on n'a pas à décider, on n'est pas un éditorialiste, nous ne sommes pas un média. même si de plus en plus notre responsabilité pénale, notre responsabilité à mieux organiser les choses, notre responsabilité à mieux sanctionner les gens qui abusent de cette liberté de parole, oui, ça c'est notre responsabilité, ça le sera de plus en plus. Regardez la manière dont l'Europe et dont Thierry Breton veut organiser l'univers numérique en Europe. Les Américains regardent ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, comme les Américains ont regardé avec beaucoup d'intérêt la défense de la donnée personnelle au moment où on a sorti les réglementations RGPD. Les Américains se sont dit, tiens, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et bien, dans tout ce qui va être autour des nouvelles régulations numériques en Europe, tout ce qui va être les nouvelles régulations numériques au niveau de l'OCDE sont des choses que nous, on trouve assez formidables parce qu'elles organisent les choses et elles obligent tout le monde à converger vers le respect des gens, le respect d'un Internet libre, le respect des responsabilités des uns et des autres, y compris des responsabilités pénales des gens qui aujourd'hui enfreignent les règles et sont là pour nous pourrir la vie. C'est très peu de gens. Enfin, on en parlait, hein. Je vais vous donner un chiffre. On publie tous 6 mois un rapport de transparence. Aujourd'hui, les tweets en infraction représentent moins de 0,1% des tweets lus. Donc, on parle bien, c'est vous dire à quel point, mais aujourd'hui, on nous regarde avec des prismes et des lunettes qui sont...
Mais le
qui
problème, sont... c'est qu'on en parle par-dessus. Ça fait boule de neige.
Les gens aiment bien, effectivement, on en parle beaucoup. Mais les tweets en infraction, je vais vous redonner le chiffre parce que c'est intéressant. Les tweets en infraction, c'est 0,1% des vues de tweets. Et 77% de ces 0,1%, 77% de ces 0,1% sont vus par moins de 100 personnes. Donc, oui, aujourd'hui, on a cette difficulté d'avoir des tweets qui peuvent être des tweets antisémites, par exemple, et qui n'ont pas leur place sur cette plateforme. Je vous le crie, si je peux, le plus fort possible, ça n'a pas sa place sur notre plateforme. Néanmoins, quelqu'un qui a 2 abonnés et qui fait un tweet antisémite et qui est retweeté par une association de lutte contre l'antisémitisme qui a elle-même 10 millions d'abonnés, ben, voilà, ça fait des effets boule de neige qu'on cherche à éviter absolument en travaillant justement avec ces associations pour les éduquer sur un certain nombre de codes pour limiter la casse et nous laisser le temps d'intervenir. On a une obligation légale d'intervention et on le fait. Voilà.
Préparez vos questions, parce que vient maintenant le temps des questions. Un dernier point en quelques mots, si je prends 4 types de publics, je voudrais voir si on peut arriver à faire une sorte de profilographie d'usage vertueux ou non de ce fil Twitter. Public des chefs d'entreprise, public des politiques, le tout un chacun, et puis dans ce tout un chacun, je vais faire une sous-catégorie qui seront les jeunes. Est-ce que ça intéresse vraiment les plus jeunes ? Voilà, si je prends les 4.
Ah, j'adore cette question. Ceux qui ont le plus progressé, ceux qui mènent aujourd'hui la vraie progression de pensée, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les derniers Trust Barometer d'Elan Edelman qui prend le pouls du monde, disent aujourd'hui, je crois que c'est plus de 55% des Français estiment que c'est les chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont les plus aptes à changer le monde et à faire évoluer les choses dans le bon sens. Et c'est les jeunes et les vieux qui disent ça, et que ça se ressent énormément sur Twitter aujourd'hui. La quasi-totalité des entreprises, enfin la totalité des entreprises du CAC 40 sont sur Twitter. Moi, je travaille directement ou indirectement avec une vingtaine de patrons du CAC 40 pour essayer pour vraiment les sensibiliser au changement qui sont opérés aujourd'hui dans le monde, les exigences des jeunes, de l'ensemble des publics pour savoir quel est le purpose de l'entreprise, pour qui roule le chef d'entreprise, ce qu'il veut faire de sa boîte, comment est-ce qu'il s'engage. Il y a des patrons extrêmement emblématiques qui ont profondément transformé la manière dont ils communiquent avec transparence sur qui est l'entreprise, quel produit, comment elle le fait. Regardez les patrons d'EDF, les patrons de Carrefour, les patrons de Danone. Regardez la manière dont tous ces gens-là mettent et rendent public le projet de leur entreprise. Ils sont capables même de temps en temps de le mettre aux voix. Hein, la manière dont Stéphane Richard a dit salarié d'Orange sur Twitter, on va s'écrire ensemble quelle est la raison d'être d'Orange. Et qu'il y a eu plus de 2000 salariés d'Orange qui ont participé par tweet. Et que les clients sont mis à participer et que c'est devenu la feuille de route d'Orange parce qu'on a consulté. Les chefs d'entreprise prennent une avance sur Twitter sur l'usage, le bon usage de la communication transparente, engagée et militante qui est remarquable. Et quand je dis les chefs d'entreprise prennent de l'avance, ne comprenez pas forcément que les hommes politiques prennent du retard, mais presque. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a... Comment ? Oui, les politiques. Donc les politiques, pour moi, c'est sans doute alors certains font très bien la manière dont aujourd'hui l'Élysée, la manière dont le président de la République utilise Twitter dans une et puis les autres plateformes d'ailleurs, chacun ayant une cible un peu particulière et des messages extrêmement particuliers. On atteint des summums. Les personnes qui sont en charge de la communication à l'Élysée étaient justement, c'est marrant, les gens qui étaient en charge d'améliorer la communication de Carrefour, d'LVMH, des consultants très brillants qui sont passés maintenant du côté de la gestion de la communication à l'Élysée. Et ça se ressent de manière assez incroyable. D'autres font très très bien. Néanmoins, l'usage aujourd'hui politique de Twitter n'a pas encore intégré, me semble-t-il, et je vais prendre beaucoup de précautions, les aspects conversationnels de la plateforme. On vient sur Twitter pour engager la conversation. Et finalement, toutes les crises de démocratie représentative, toutes les crises qui ont été soulevées pendant les derniers phénomènes de Gilets jaunes en France, n'étaient-ils pas finalement un peu symptomatiques de cette incompréhension qu'avaient les politiques de l'usage qui était devenu de ces plateformes. Dire, quand on regarde Stéphane Richard aujourd'hui, il utilise bien mieux le potentiel de réflexion et de discussion que n'utilise aujourd'hui, en dehors de quelques exceptions. On a des maires extraordinaires en France, le maire de Cannes qui gère sa ville quasiment sur Twitter. Il y a d'autres maires qui font moins bien, mais on ne dira pas lesquels.
Ils ne font pas du tout.
Étienne.
Ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, le chef d'entreprise arrive à gérer, ce mot a beaucoup été dit, mais cette fameuse notion d'écosystème, très bien. Le politique s'en sert comme d'une arène, pour dire le mot. Donc c'est un match à catch, on balance les thèmes et on voit comment ça monte. Et on vit en fonction de ses émotions plus, qui sont recueillies, lâchées, etc. Donc peut mieux faire encore. Le tout un chacun, il observe tout ça, il compte les points, il regarde, il se délecte de ces échanges plus ou moins hauts, voire carrément violents.
Et les jeunes. Alors, je ne sais pas si tu as résumé exactement ma pensée, mais enfin, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Le fait est qu'effectivement, c'est formidable de voir à quel point Emmanuel Faber, qui était patron de Danone, avait créé son écosystème où il discutait, il tapait parfois assez fort avec Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA. Il discutait parfois assez fort avec Michel-Édouard Leclerc. Et puis finalement, le jour où il arrivait un truc un peu pénible à Danone, et ben c'était la FNSEA qui disait « Attendez, attaquez pas Danone sur le prix du lait. On bosse avec eux depuis 5 ans et ça marche. » Et c'est vrai que l'entreprise est sortie de son éprouvette en rendant public, finalement, ses engagements, son communication. Pour ce qui est du tout un chacun. Alors, tout un chacun, je pense que l'image qu'on avait de Twitter comme étant un réseau extrêmement élitiste a vécu. C'est-à-dire que aujourd'hui, je n'ai pas le droit de vous donner de chiffres parce que sinon je vais me faire engueuler, mais il y a entre 4 et 6 millions de Français qui utilisent Twitter chaque jour. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est colossal comme chiffre. Surtout si vous pensez que c'est effectivement une population qui est plutôt éduquée, plutôt CSP+, plutôt très engagée sur les combats associatifs, plutôt très engagée sur la vie citoyenne. Ça donne une force de réaction et d'engagement qui est colossale. Si on regarde aujourd'hui le lectorat du Figaro, du Monde, des gens accumulés, on n'est vraiment pas à ça. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui une force, une audience qui est extrêmement engagée et extrêmement disponible. Mais pas seulement. La manière dont on regarde Twitter, on est ce qu'on appelle nous en discovery mindset. C'est-à-dire qu'on ouvre Twitter pour regarder. On n'ouvre pas Twitter de manière passive en disant j'allume la télé, je regarde une chaîne YouTube. On est là parce qu'on cherche de l'information. On cherche de l'information et ça permet aujourd'hui à Twitter de pouvoir être... LVMH, par exemple, nous utilise pour retransmettre les défilés de mode en direct aujourd'hui. Vous savez combien de gens regardent les défilés de mode en direct sur Twitter aujourd'hui ? 32 millions de personnes ont regardé le défilé Vuitton au début du mois. 32 millions de personnes. Il y a quelques temps, les défilés de mode, c'était sur Paris 1ère, Marie-Christiane Marek, et on était 5000. Aujourd'hui, on a une force du live et de l'accès à l'information extrêmement important. Là où on a un vrai défi, et tu as raison de m'emmener sur ce terrain-là, c'est sur le fait que les gens n'ont pas encore tous la liberté, la faculté de se servir de Twitter comme étant une plateforme de discussion et de conversation. On est sur une plateforme d'information. Si vous n'utilisez pas Twitter, allez juste voir la richesse de l'information, l'instantanéité de l'information, étant pas moins quelqu'un qui tweete énormément. J'utilise en revanche Twitter de manière frénétique. Je suis un boulimique d'informations. J'utilise Twitter de manière frénétique pour savoir et comprendre ce qui se passe dans le monde. Et c'est un usage. Mais la manière dont nous, on veut stratégiquement orienter de plus en plus la plateforme pour tout le monde, c'est d'en faire une plateforme de discussion beaucoup plus conviviale, beaucoup plus utilisée. On pense même à enlever par exemple des matrix de likes, enfin des likes, des trucs, parce qu'on se dit finalement les gens, certains n'osent pas parler parce qu'ils vont dire un truc et puis il n'y aura pas 12 likes. Bon, on va peut-être enlever les likes si ça facilite l'accès, ça enlève un peu de timidité de dire des choses qui sont parfois des trucs pas très populaire. Ou donc ça fait c'est des choses auxquelles on réfléchit en termes d'évolution de l'usage. Voilà.
Bien. On parlera aussi des jeunes, mais je voudrais déjà prendre quelques questions parce que sinon le temps file. Marie de Henzel, souvenez-vous, a fait un tweet lorsqu'il s'agissait de déconfiner sauf les plus de 65 ans pour s'en indigner. Tweet repris par la presse, en l'occurrence Le Figaro, pour faire une tribune, lu par le regretté notre cher Axel Kahn, qui lui signale que c'est anticonstitutionnel, et ensuite le politique s'en empare, et ensuite une décision est prise. Donc on a là, merci Marie, un exemple positif d'effet, d'impact, d'une conversation qui amène à quelque chose de concret. Est-ce qu'il y a en attendant une autre question ? Monsieur ? Alors, la question de monsieur, c'est... Damien a évoqué la notion de machine learning, donc ce qui induit pour monsieur évidemment l'investissement dans tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'à terme, ce fil Twitter va être finalement géré par un automate qui évidemment peut être susceptible d'avoir des bugs et de prendre parfois des décisions, mais que l'humain peut peut-être attraper aussi?
Alors, plusieurs choses. Quand on a à gérer... finalement 400 à 500 millions de tweets par jour, on est bien obligé de faire appel à des machines et à de l'intelligence qui par l'apprentissage va nous aider à identifier le plus rapidement possible des comportements qui sont des comportements illicites ou qui sont même des comportements... je vais donner juste un idée. On a fait travailler les étudiants de la Bocconi sur la meilleure manière d'étudier les tweets qui sont systématiquement contributeurs négatifs à la conversation. Et ces gens-là étant des gens qui vont empêcher, vous et moi, de nous exprimer. Bon. Et la Bocconi nous ont aidés à construire un système qui est un système qui a renoncé à lire et à comprendre le tweet, puisque les interprétations de langage et subtilités d'humour sont de temps en temps assez peu perceptibles par la machine. Vous êtes déjà sans doute aperçu en face de votre machine à café. Et bien parfois, effectivement, le sujet est que la machine va nous aider à lire les comportements des gens qui vont lire ce tweet. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens qui vont lire les tweets de ces gens-là, systématiquement les trouver pas très intéressants ou alors négatifs. Et donc on apprend, nous, à lire les réactions via le machine learning des gens qui lisent vos tweets ou qui lisent les tweets de gens. Donc, on sophistique autant que faire se peut et que cette sophistication, pour tomber dans une compréhension beaucoup plus fine, finalement, de ça, fait de toute façon appel à du machine learning. Il y a une très grande et très vaste définition du machine learning et de l'intelligence artificielle. On y va très modestement et pour l'instant, c'est essentiellement concentré sur des problématiques de sécurité et de sérénité de conversation. Pour ce qui est de l'organisation de l'information sur Twitter, vous l'avez bien compris, comme je vous l'ai dit, qu'on est plutôt sur une démarche Twitter de volontairement aller s'abonner à des sources d'information en fonction du degré de crédibilité, d'intérêt que vous avez à ces sources d'information. Jusqu'à présent, on a plutôt, nous, fait travailler des équipes éditoriales dans certains pays pour tester des concepts plutôt que du machine learning. Mais vous savez, on est obligé d'être ouvert à tout et fermé à rien concernant les technologies. Pour l'instant, elles sont essentiellement utilisées dans des problématiques de protection et de défense de nos utilisateurs.
Madame. La question de madame porte sur le cadre juridique. Y a-t-il des lois françaises spécifiques auxquelles le fil se rattache ? Est-ce que tout cela est harmonisé du point de vue européen ? Est-ce que ça représente un nœud gordien assez important pour la conduite ?
Vous parlez des fermetures de comptes. D'accord. Alors, il s'agit de deux sujets différents. Il y a d'un côté le cadre réglementaire et effectivement... Nous, notre souhait et la manière dont on travaille avec l'ensemble des institutions, notamment à Bruxelles, et des gouvernements européens, c'est de faire en sorte d'avoir une plus grande homogénéité dans les univers qui nous régulent, que ce soit des univers d'organisation des contenus, de droit copyright, de gestion d'un certain nombre de sujets, notamment de taxation. Au plus, nous aurons des initiatives coordonnées, soit au niveau de l'OCDE, ce qui va être le cas des problématiques de fiscales, soit sur des problématiques d'organisation des contenus, de rémunération des créateurs de contenus, toutes ces problématiques extrêmement importantes pour la bonne santé de notre écosystème, de la même manière que la défense d'un Internet libre et ouvert, accessible, concurrentiel, tout ça sont des choses qui doivent être de plus en plus harmonisées, et c'est toute l'intention du commissaire européen Thierry Breton dans ce qu'il est en train d'organiser au niveau numérique. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, vous n'empêcherez jamais aucun gouvernement de réagir de manière chaude à l'actualité en pensant qu'il faut des nouvelles lois et que les choses iront mieux, qu'il y aura moins de violence, qu'il y aura moins de... Et c'est vrai que ça nous arrive très souvent, finalement, d'être confrontés à des réflexions locales. Et on est très heureux de pouvoir aussi participer à cette réflexion locale. Mais on aimerait bien que ça se passe au niveau pan-européen ou même au niveau mondial d'une manière uniformisée. Donc ça, c'est une réalité. La France a des lois. La France a des tribunaux, met en place ou pas, tout existe, hein. Il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup de nouvelles lois, tout existe. On publie, nous, notre fameux rapport de transparence tous les 6 mois, on a établi que sur la totalité de l'année 2020, la justice avait requis dans le monde, à travers 80 000 jugements, une fourniture d'informations, de données sur des gens qui avaient écrit, publié des tweets qui étaient en infraction avec des lois ou des réglementations locales. 80 000 donc, jugements de tribunaux nous sont, ou demandes d'informations nous sont parvenus. La France, c'est 0,8% de ces demandes mondiales. Donc le cadre légal, croyez-moi, en France existe. Le cadre existe. Derrière, il faut que ce cadre légal et juridique soit mis en œuvre. Et c'est peut-être sans doute ce qu'il faut qu'on améliore aujourd'hui dans notre pays. Mais moi, je suis plein d'espoir. Il y a le procès Mila qui a eu lieu il y a quelques temps, qui a fait que, alors je n'ai pas à commenter généralement de procès, hein, mais qui a fait en sorte qu'on ne peut plus impunément en France harceler ou organiser du harcèlement. Déjà, ça enfreint nos règles à nous de manière extrêmement stricte. Et en plus, la justice maintenant a décidé des peines de prison pour les gens qui se livrent à ce genre de menaces, d'exercices. Donc ça, ce sont de très bonnes nouvelles. Qu'on fasse ça au niveau mondial et au niveau pan-européen dans le même cadre, bien sûr, ça nous faciliterait beaucoup la tâche. Maintenant, sur le second sujet, qui est... en France, oui, on prend des décisions de fermeture de compte s'ils enfreignent nos règles. Et ça, il n'y a pas de mystère, on le fait pour un président américain, on le fera pour toute personne qui enfreindra nos règles et qui ne respectera pas et qui ne voudra pas se conformer à la manière dont nous, on estime qu'il faille organiser les choses chez nous et que personne n'est à l'abri de ça. Et je trouve que c'est un message plutôt positif, que vous soyez riche ou puissant, que vous soyez... Voilà, aujourd'hui, vous êtes soumis aux mêmes règles. Et je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle, parce que ces règles, c'est les mêmes en France. C'est les mêmes en Turquie, c'est les mêmes en Angleterre, c'est les mêmes en Russie. Voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Autre question. Monsieur.
Alors, est-ce que dans tous les pays du monde, nos règles sont les mêmes? Je doute que vous attendiez de nous qu'on ait des règles protéiformes. Dans certains pays, on fait ça. Dans d'autres pays, on ne fait pas ça. On s'adapte à des contextes. Et que ces contextes... ça fait partie de mon métier, moi, par exemple. Je suis un donneur de contexte. Quand il se passe quelque chose en France, j'ai mon patron qui m'appelle, qui me dit « Est-ce que tu peux me donner du contexte ?» Je donne du contexte. Nous n'avons pas, nous, à organiser les prises de parole. On a vérifié que les gens qui s'expriment sur notre plateforme respectent nos règles. Voilà, c'est la seule chose aujourd'hui, moi, que je puisse vous répondre. Je ne peux pas aller au-delà de ça, je n'ai aucun pouvoir de faire autre chose. En revanche, ce que je sais, c'est que dans un certain nombre de pays, il n'y en a pas beaucoup, il y en a essentiellement un, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas en Chine. Vous imaginez économiquement pour une entreprise la décision de ne pas être en Chine? Donc nous, on a fait ce choix-là, on est une petite entreprise, hein. On est coté à la bourse de New York, on est la propriété de personne, d'aucun grand groupe. Just fucking us. C'est vraiment ce qu'on a coutume de dire. C'est-à-dire qu'on assume ces décisions et que pour fermer la Chine, moi, je dois travailler 2 fois plus. Et on a pris cette décision-là parce que on ne peut pas y aller. On ne mettra jamais nos règles en conformité avec ce qu'attendent les autorités locales. Donc ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels on refuse d'aller parce qu'on n'y arrivera pas. Et puis après, il y a des pays dans lesquels on va et on applique nos règles sur est-ce que lui, il a droit d'utiliser ou pas la plateforme, est-ce qu'il doit s'exprimer ou pas, est-ce que ce tweet est conforme ou pas à nos... Et puis après, le reste, généralement, on laisse la justice de ces pays-là décider de la suite et que parfois, je dis bien parfois, il nous arrive de nous opposer à la justice de ces pays si jamais on estime que ça ne va pas dans le sens de la protection de nos utilisateurs. Donc on peut aussi avoir quelques libertés qui sont, et encore une fois, je suis désolé de vous renvoyer toujours là-dessus, mais allez le voir, c'est assez sympa à lire, c'est le rapport de transparence, où on donne le pourcentage de réponses positives à des requêtes de justice pays par pays, et vous verrez que les choses sont assez fluctuantes. Voilà quel est notre rôle, quelle est notre mission. Après, on n'a pas, nous, à attendre ou à enlever le micro en fonction des opinions des gens, en fonction de... À partir du moment où on respecte les règles chez nous, et c'est pas facile de respecter les règles chez nous quand on est quelqu'un qui respecte pas toutes les règles chez lui déjà. Donc c'est compliqué.
Monsieur, tout le monde a entendu.
Alors, comment est-ce qu'on concilie tout ça? En se faisant beaucoup engueuler par tout le monde tout le temps. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est pas le cas aujourd'hui, mais le privilège est toujours donné à l'utilisateur de la plateforme. Je pense que la grande philosophie des plateformes américaines, c'est que c'est toujours la plateforme c'est toujours l'utilisateur qui est la priorité. Après, on met de la pub si on peut. Moi, je suis le premier à prendre les décisions. J'ai un bouton, couper la pub. C'est-à-dire que mais je parle sérieusement. Le soir des attentats de Nice, le 14 juillet, où moi, j'avais mon bouton, c'est la France qui a été... j'ai fait revoir toutes les procédures pour arrêter la pub instantanément, parce qu'il n'était plus question pour moi de vous montrer une pub pour une voiture, pour autant, donc on est capable de se couper de revenus publicitaires pendant très longtemps s'il le faut, et puis même de ne pas reprendre pendant 15 jours si jamais c'est le sujet, de protéger les annonceurs aussi, parce que forcément si vous êtes une marque d'automobile et que vous vous retrouvez en plein milieu d'une discussion sur, moi j'ai un problème avec LVMH et Hermès qui sont pour moi des annonceurs extrêmement importants, mais qui se retrouvent de temps en temps sur des discussions sans fin avec PETA on essaye de leur donner des méthodes de discussion et de dialogue avec, mais de temps en temps il y a des gens, qui pensent que la seule future de Coca-Cola c'est mort parce que ils font des tas de choses, l'obésité, le truc de machin. Donc de temps en temps les intérêts sont irréconciliables. Moi mon rôle c'est de faire en sorte que l'utilisateur, que les gens puissent s'exprimer correctement. Je ne subis aucune pression de personne sur retirer des contenus. Vous ne me verrez jamais en retirer des tendances, jamais en retirer des contenus. Ça n'existe pas. Et que Twitter est une entreprise profondément militante, profondément activiste, comme les Américains. Et que j'ai un papier de mon patron qui me dit j'ai le droit de m'engueuler avec à peu près tout le monde. Voilà. Le tout, c'est que j'allais chercher du business ailleurs si je m'engueule avec Renault. Alors pourquoi aussi peu? Non, mais je pense que la marche est grande. Et c'est vrai que quand on regarde les structures d'usage par âge de Twitter, on a un vrai déficit d'usage chez les plus de 55 ans. Et en revanche, les jeunes sont devenus extrêmement majoritaires dans leur usage. On est extrêmement surpondéré par les jeunes. J'y vois cette fameuse génération Z qui vient chez nous, qui s'informe, qui veut savoir comment les produits sont fabriqués, qui veut pouvoir interpeller la patronne de la Redoute, Nathalie Bala, si jamais le colis est en retard, qui veut pouvoir engueuler la SNCF. Et c'est elle qui répond, Nathalie. Ouais. Et donc, il y a toute cette génération qui vient sur Twitter pour apprendre ce qui se passe, parce qu'elle est capable de décrypter l'information, le vrai, le faux, elle est capable de la challenger en permanence. Il y a une intelligence dans l'utilisation de Twitter par les jeunes générations qui est remarquable et qui fait que effectivement il y a un fossé extrêmement important. Ce qui renforce aussi notre devoir d'éducation, notamment ce qu'on fait aujourd'hui auprès d'e-enfance, du CLEMI, pour essayer de faire en sorte d'avoir des formations beaucoup plus fortes en France sur l'initiation au monde numérique des plus jeunes. Mais après, effectivement, les plus de 55 ans sont sous-utilisateurs de la plateforme Twitter. Je suis désolé, je ne vais insulter personne, mais c'est tout le travail que l'on fait de simplification de notre plateforme et d'éducation autour de notre plateforme qu'on est en train de mener et qui fera qu'on continuera à augmenter l'usage. On a en France une croissance d'usage qui a été une croissance entre 30 et 50% par trimestre depuis 4 ans. Donc on est en train de grossir et c'est vrai que notre prochaine étape, c'est vraiment de continuer à éduquer les générations de plus de 55 ans à l'usage de notre plateforme. On est en train de plutôt d'avancer dans le bon sens là-dessus. Maintenant, je vais peut-être installer une table au marché de Saint-Sauveur.
Tu ne vas pas l'installer parce que moi j'ai un petit moment de publicité à faire parce qu'il est midi 5. On a commencé un peu en retard, merci. Le passe, etc. Donc on va continuer. Il y a une question de madame, il y a une question de monsieur, j'ai bien vu. 30 secondes pour vous dire, la sortie, s'il vous plaît, pour respecter un petit peu l'espace ici qui nous est aimablement mis à disposition par le département, c'est bien suivre les fils rouges et blancs, là, et passer entre les deux. Là, on a indiqué sortie. Deuxième info, n'hésitez pas à contribuer quelque peu financièrement à ce moment, s'il vous plaît, parce qu'ensuite, nous avons besoin d'éditer des petits papiers d'information. N'hésitez pas à vous inscrire, à devenir membre de l'association Une île des auteurs. C'est permettre d'inventer encore d'autres moments pour faire vibrer nos cerveaux, d'être plus au courant de nos actions. Il y a des stages d'écriture. On va aussi dans les écoles pour initier les jeunes à apprendre à écrire. Il y a un concours de nouvelles qui vient d'être lancé. Signalez-vous auprès d'anitapoiré@gmail.com si vous voulez proposer une nouvelle. Elle vous expliquera toutes les conditions pour pouvoir contribuer à ce prochain concours de nouvelles. Et il y a bien sûr la Biennale et des moments comme un lieu, une rencontre. Voilà, j'ai fait mes 30 secondes sur le fil. On reprend les questions. Il y avait une dame là-bas, pardon, qui depuis longtemps voulait poser une question. Pardon messieurs, un petit peu place aux femmes là. La notion de data, la notion de données, à partir du moment où j'émets du contenu sur Twitter, etc., on me connaît, on peut me repister, on peut savoir qui je suis, etc. Qu'en faites-vous ?
Alors, je vous signale, Twitter est une entreprise qui a un passé extrêmement militant et activiste. Et on a construit cette plateforme à l'origine sur un minimum de données personnelles. C'est-à-dire qu'il fallait que dans aucun pays, on sache trop de choses sur les gens et c'était pas bon. Donc au moment où la réglementation RGPD est rentrée en vigueur en Europe, on a ouvert nos serveurs, on dit bon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a là-dedans qui puisse nous porter, enfin qui puisse faire qu'on enfreigne les règles de cette réglementation. On n'a pas trouvé grand-chose en fait. Twitter, c'est une entreprise qui a très peu d'informations. Moi, quand je suis arrivé, il y avait moins de 2% des profils qui avaient activé la géolocalisation. Donc, sur d'autres plateformes, vous rentrez dans une boutique Sephora, c'est immédiatement que vous êtes rentré dans la boutique. Nous, on avait très, très peu d'informations. Donc, d'une part, Twitter a très peu d'informations. Donc, on n'a pas une très grosse mise en conformité à faire. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de la fourniture d'informations à des instituts ou des entreprises, on ne donne que l'information publique, c'est-à-dire que vous avez votre nom ou votre pseudonyme et ce que vous tweetez. C'est exactement l'information que l'on donne. On n'a pas malheureusement toutes les informations sur les âges, on a très peu d'informations sur les numéros de téléphone, on a très peu d'informations, très très peu, et en tout cas on ne fournit que la teneur du tweet et puis votre nom, enfin on fournit très très peu d'informations. C'est extrêmement, extrêmement encadré et je suis dans une entreprise qui est plutôt paranoïaque sur justement ce qu'on peut faire et pas faire. On est extrêmement prudent plutôt que paranoïaque, pardon. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, j'enchaîne sur la question suivante, c'est l'anonymat. Et peut-être que ça, c'est anticipé une certaine question d'entre vous, l'anonymat n'existe pas. C'est-à-dire que nous, on sait qui écrit les tweets derrière et si jamais quelqu'un nous le demande, notamment une enquête de justice, on est capable de donner, et donc il y a le pseudonymat qui existe sur la plateforme, parce qu'il faut permettre à des gens de pouvoir s'exprimer librement, notamment des jeunes homosexuels en Tunisie, notamment de pouvoir tweeter, s'exprimer, interagir, discuter. Donc on est des ardents défenseurs du pseudonymat sur notre plateforme, et je répète que l'anonymat n'existe pas, puisqu'on a au moins l'identification d'adresse IP qui permet à la justice de retrouver les auteurs de tweets qui ne sont pas aujourd'hui légaux ou en conformité avec nos règles.
Le rythme s'accélère. Monsieur, en face, on y va.
Alors, vous écrivez un tweet. Voilà. Vous écrivez un tweet. Et votre tweet va être publié sur votre compte. Et il sera accessible. Il arrivera dans le compte, la timeline Twitter des gens qui sont abonnés à votre compte. Et il sera accessible aussi aux gens qui vont venir voir votre profil et qui liront ce que vous avez écrit. Voilà.
Et si vous mettez hashtag avec des mots-clés ?
Et si vous mettez, voilà, si vous mettez aussi, pardon, si vous pouvez indexer aussi, par exemple, si vous êtes un lieu, une rencontre, donc hashtag un lieu, une rencontre, tous les gens, et vous direz, voilà, conférence interminable, et bien les gens qui chercheront sur un lieu, une rencontre, verront votre tweet en disant, alors c'était interminable, il ne s'arrêtait jamais de parler, etc. Vous pouvez aussi avoir cette recherche par thème et par hashtag.
Voilà, le hashtag fait thématisation.
Classe.
Madame, depuis longtemps vous vouliez parler, allez-y. Oui, alors, madame qui est psychanalyste dit que, quelle est, par rapport au complotisme, à la notion de complotisme, et les dérives pseudo-scientifiques, quelle est la position de l'équipe Twitter et d'un fil Twitter vis-à-vis de ce genre de choses? Et puis, comment est-ce que l'algorithme, puisque d'où ma question sur les subtilités de la langue française et sur la notion d'humour. Comment, finalement, l'ennemi, presque, ce sont les mots, alors même que vous usez des mots.
Alors, déjà, je vous ai expliqué. C'est la manière dont on fonctionne, c'est une espèce de trilogie. On a des règles, on les adapte. On a des technologies et des gens qui les font appliquer. Et après, on prend des sanctions. C'est aussi simple que ça. Nos règles, à l'occasion de la pandémie et à l'occasion de la mise en œuvre de la vaccination mondiale, ont considérablement évolué. Il est interdit sur Twitter de, je pourrais vous citer tout le truc, mais de dire par exemple que le vaccin tue. C'est interdit sur Twitter de dire ça. Si vous dites ça, vous vous faites sanctionner. Nous avons agi sur les 6 derniers mois de 2020 sur 10 300 000 comptes dans le monde. Nous avons agi sur 10 300 000 comptes. Ça veut dire que ça marche plutôt pas mal. Après, donc, il est interdit de propager un certain nombre de fausses informations. Maintenant, ça, c'est ce qu'on fait pour adapter nos règles. Elles ont été considérablement renforcées, pandémie et virus et vaccination. Vous ouvrez aujourd'hui Twitter. En haut de des bandeaux de recherche, il y a les informations sur le Covid. Nous avons travaillé avec l'OMS et avec les autorités santé publique en France, un certain nombre de messages, de sources d'informations officielles qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on a mis en place de l'information gratuite à disposition du gouvernement. Donc nous avons contribué aussi à faire en sorte que les gens qui cherchaient de l'information fiable puissent la trouver. Aujourd'hui, vous allez dans la barre de recherche de sujets des hashtags sur Twitter, vous tapez « vaccin tue ». Le premier résultat de recherche, c'est quelles sont les positions de l'OMS et des autorités publiques de santé en France sur la vaccination. C'est-à-dire qu'on force, et on le fait très rarement, on force un petit peu la main à nos utilisateurs en mettant dans leurs résultats de recherche les résultats officiels qui sont définis avec les autorités de santé publique en France et avec l'OMS. Donc ça, c'est notre contribution à la bonne information et faire en sorte qu'on essaie de faire converger le plus possible vers l'information juste et officielle. Après, il y a une deuxième question, madame, qui a été notre surprise au moment de la pandémie, et ben de constater que la violence, elle ne s'exprime pas seulement dans le milieu du football, elle s'exprime aussi dans le milieu médical. Et que la teneur, la violence des débats entre médecins, entre soignants, à l'occasion des discussions sur les traitements, sur l'origine de la pandémie, on a découvert, nous, tout un nouveau monde. Hein. Et je vais vous dire, ça a donné aussi matière à penser, je l'espère, un certain nombre d'organismes qui sont censés encadrer aussi un petit peu le monde de la médecine en France, à commencer par le ministère de la Santé, mais aussi les ordres, parce qu'on a découvert que... il paraît qu'on me dit que c'est normal, tu sais, les discussions comme ça en salle de garde, ça a toujours été extrêmement violent. Je dis, moi, je n'ai jamais été dans une salle de garde, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je vais vous dire, honnêtement, je préfère un débat sur le football, c'est moins violent parfois que des débats entre médecins sur Twitter. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous empêchez les médecins de parler parce qu'ils ont des avis différents? Je pense pas. Je pense que, justement, le principe d'être sur Twitter, une plateforme ouverte et libre à la conversation, fait quand il y a un médecin qui dit une connerie, ben 50 médecins qui lui tombent dessus. Et qu'il y a une discussion et qu'il y a... Regardez, je suis énormément de médecins. Alors, on avait beaucoup de médecins sur Twitter. Historiquement, il y avait un réseau qui s'appelait DocTocToc. Vous tapiez hashtag DocTocToc. Je suis médecin dans la Creuse. J'ai un patient qui montre tel et tel et tel symptôme, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et les médecins se répondaient entre eux. Il y a des réseaux de médecins sur Twitter, il y a des réseaux d'agriculteurs. Regardez les France AgriTwittos, 50 000 agriculteurs qui discutent entre eux sur Twitter, c'est fascinant. voyez ça aussi de ce qu'on est. Hein. On permet aux agriculteurs d'être désisolés, on permet à des médecins de réfléchir ensemble, on permet à des scientifiques de discuter sur des problématiques de cancer, on permet à des alors, tout ça aussi, c'est sur Twitter. Et c'est vrai que la teneur et la violence des discussions et des conversations à l'occasion de la pandémie et des problématiques de vaccination, on a appris beaucoup de choses, nous aussi, et on s'est adapté, encore une fois. Maintenant, on a suspendu des médecins. On est intervenu sur 10 300 000 comptes. Croyez-moi, à l'intérieur de cela, il y avait des comptes de soignants. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à toute votre question, mais voilà.
Au fond, là-bas, un monsieur. Alors,
Twitter et la cybersécurité. Alors, c'est un vrai sujet, parce que, en règle générale, on a plutôt... Alors, je touche du bois et tout le monde doit être extrêmement modeste là-dessus. On a plutôt, nous, une faible capacité à être attaqué, un faible historique d'attaque. On a eu des breaches, quelques-uns. On communique tout de suite. On est la plateforme la plus transparente. Dès qu'il nous arrive un truc, on publie un tweet, on dit « attention, il s'est passé ça ». C'est arrivé 2-3 fois où on a passé des nuits blanches à appeler nos clients, on a appelé les utilisateurs. Enfin, c'est arrivé quelques fois. Les principales problématiques de sécurité des comptes sur Twitter aujourd'hui, parce qu'on a établi un certain nombre de notamment il y a double facteur de vérification, quand vous vous connectez, vous pouvez demander une vérification par SMS, etc. C'est plutôt bien fait ce genre de choses. On a plutôt peu aujourd'hui de comptes qui sont hackés. Les comptes les plus hackés aujourd'hui sont des comptes qui font appel à je vais commencer à jargonner un petit peu, mais font appel à des applications third party, c'est-à-dire que des gens ont des applications branchées à leur compte Twitter pour compter leurs followers, pour envoyer des tweets à 2h du matin. Certains donnent les clés de leur compte Twitter à des applications qui vont organiser le flux de leurs informations, et que c'est souvent ces applications third party qui ont des portes qui s'ouvrent, qui sont mal fermées à clé, et qui permettent des hackings de comptes. Nous, de ce côté-là, on est plutôt pas mal, et on a embauché un Chief Data Security Officer qui est forcément un... quelqu'un qui a un ancien hacker et qui fait un travail de fou. Il y a juste, je permets de soulever le point de la sécurité, de la cybersécurité, parce qu'il va être forcément lié, on va rentrer dans un temps électoral en France, il va être forcément lié à des problématiques de manipulation d'informations, de manipulation des comptes. Et que ça, c'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui, parce que effectivement, il y a des États mal intentionnés qui vont chercher à intervenir sur l'information sur Twitter, sur sa propagation, sur sa manipulation. Et que notre grosse obsession aujourd'hui, on a très peu parlé dans l'année électorale qui arrive, comme on a pu le faire et mettre en œuvre à l'occasion du temps électoral aux États-Unis, ça va être de limiter le plus possible les phénomènes de manipulation d'informations liés à des attaques de pays cherchant à intervenir dans le processus électoral français. Donc ça fait partie de nos gros sujets d'actualité. On y pense beaucoup d'énergie. On a beaucoup appris l'élection américaine. Il faut juste espérer qu'ils n'aient pas encore eu des idées de génie entre l'élection américaine et maintenant, et que ça se limite un peu. Donc on doit apprendre. Les comportements anti-spam ont été fortement améliorés ces dernières années. Et là, on doit apprendre sur la prochaine génération d'enquiquinements qui vont nous tomber sur le coin du nez. Je ne dis pas qu'on a un métier, faut pas nous plaindre, hein. On a un métier qui nécessite juste d'écouter en permanence ce qui se passe et la manière dont les technologies peuvent nous aider à être plus efficaces et plus opérants sur des gens mal intentionnés. Voilà.
Oui. Autre question, il y a mademoiselle.
Ah. Alors, c'est une réflexion qui est en cours, la réflexion du temps de parole des politiques et des partis sur Twitter à l'occasion du processus électoral qui s'amorce en France. Je veux pas m'avancer trop, mais pour l'instant, jusqu'à présent, non. Mais je pense que nos organes de régulation, notamment je pense que le CSA, se posent ce genre de questions et qui est tout à fait légitime. Monsieur ? Alors, des conseils à donner aux non-utilisateurs. C'est assez simple d'ouvrir un compte Twitter. Les deux ou trois premières choses à faire, c'est donc vous ouvrez votre compte, vous écrivez votre petite bio et vous allez essayer de savoir quelles sont les informations que vous allez vouloir venir chercher sur Twitter. Et vous allez vous dresser une... On va vous aider d'ailleurs, on va vous guider sur cette recherche par thème. Est-ce que vous êtes là plutôt pour, me concernant, la cuisine, la politique, et on va vous suggérer un certain nombre d'abonnements. D'ailleurs, si vous vous dites la politique, on va vous suggérer par là
et on veut suggérer par là, et on veut suggérer par... on va avoir une vision assez large des suggestions qu'on va vous faire. Encore une fois, nous, on cherche à promouvoir des points de vue différents et contradictoires. Donc, on va vous suggérer un certain nombre de comptes, et vous allez vous abonner. Vous allez commencer à vous abonner à une trentaine ou une quarantaine de comptes. Essayez d'abord les médias, essayez les fédérations sportives, essayez les quelques sportifs ou les quelques gens qui vous passionnent dans vos centres d'intérêt. Et puis après, vous allez aussi chercher dans vos sphères professionnelles qui est sur Twitter et regarder ce que eux suivent dans la sphère professionnelle. Vous allez aussi commencer à contacter vos amis. Donc, essayez step by step. Essayez d'abord les médias, les centres d'intérêt. Ensuite, si ça comporte un intérêt pour vous, vos milieux professionnels, parce que c'est toujours très intéressant de voir comment eux utilisent Twitter d'un point de vue pro. Et puis après, le plus simple, c'est de vous laisser guider et de regarder ce que font les gens que vous connaissez, les gens que vous aimez, et de regarder ce que eux suivent. J'ai beaucoup singé les gens et regarder ce que eux faisaient, ce qui suivaient, parce que j'ai découvert des pépites de gens qui suivaient que j'aurais pas eu naturellement la tentation de suivre. Et puis vous allez voir, un jour vous aurez envie de retweeter quelque chose. Il y a un article qui vous plaira, vous aurez envie de le liker. D'ailleurs, sur les articles, je rappelle que sur Twitter, pour retweeter un article, il faut l'avoir lu, ce qui est quand même ce qui a été une innovation qui a été importante pour nous, pour éviter justement de partager trop d'informations qui est des informations partielles ou mal lues, mal comprises. Et puis, donc, vous allez commencer à retweeter, à liker, et puis vous allez un jour, vous allez avoir envie de dire quelque chose. Et puis, peut-être que ce sera intéressant, peut-être que ce sera drôle, peut-être que on a vu des gens qui avaient 200 ou 300 followers, avoir des tweets likés et retweetés à 100 ou 200 000 fois. Donc peut-être que vous avez des phénomènes comme ça qui vont vous arriver. Et puis peut-être qu'il ne se passera jamais rien, peut-être que personne ne réagira jamais à aucun de vos tweets. Mais juste le fait de l'avoir dit, vous allez voir, ça va vous soulager. Et je vais vous dire, le principal usage que j'ai eu moi au début sur Twitter, ça a été de pouvoir changer mon billet d'avion. J'ai eu un vol San Francisco-Paris qui a été annulé un vendredi soir. Un A380 qui se retrouve par terre, il y a du monde qui cherche un billet, je vais vous dire. Et donc j'avais beau être platinum, je sais pas quoi, j'ai envoyé un mail à Air France qui m'a répondu 3h30 après qu'ils avaient tenu compte de mon mail et qu'ils allaient me répondre dans les 24 heures. Et j'avais besoin d'être à Paris le lendemain. J'ai tweeté, 20 minutes plus tard, j'avais un billet d'avion sur le vol d'après. Donc les entreprises sont extrêmement équipées dans leur service client sur Twitter. Ils détestent que des gens puissent critiquer les services clients, etc. Donc, comme c'est public, ils répondent très vite. Vous allez voir. Testez la SNCF, testez la RATP. Comment ? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et vraiment, testez un jour, vous avez besoin d'un truc, vous avez besoin de contacter un patron, il vous arrive un truc, essayez Twitter, vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Apple a décidé de mettre la totalité de son service client sur Twitter. Vous avez la boutique et vous avez pas d'autres capacités de joindre au service client et vous avez les patrons de temps en temps qui répondent très vite. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai jamais vu, mais je sais que Jeff Bezos, si un jour quelqu'un interpellait Jeff Bezos sur un problème Amazon, valait mieux pas être la chaîne hiérarchique en dessous qui a mal répondu. Là aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, Nathalie Ballade redoute, elle répond directement aux gens qui ont des problèmes de service client pas répondu, etc. Farandou, le patron SNCF, c'est pareil. Enfin, essayez, c'est assez saisissant, quoi. Donc ça aussi, c'est une expérience que je vous recommande. Essayez de rentrer en contact avec les marques. Pas forcément pour râler, hein. Vous pouvez leur dire aussi que vous les aimez. Hein. Et vous verrez qu'ils réagissent, très bien. Et parfois, ça fait gagner beaucoup de temps dans les files d'attente quand votre star est annulée ou des choses comme ça. C'est très, très bien.
Autre question. Alors, économiquement, pour parler du modèle économique, est-ce que vous êtes rémunéré si les tweets sont légèrement orientés ou amenés vers telle ou telle entreprise ? Est-ce que du coup, l'entreprise peut vous rémunérer ou vous inciter à faire en sorte que cela arrive ?
Alors, la manière dont nous sommes rémunérés, c'est, je vous disais, il y a de la publicité sur Twitter. Et cette publicité, vous voyez, c'est des tweets, il y a marqué « sponsorisé ». Donc, c'est des tweets qui sont facilement identifiables. Des tweets sponsorisés, vous avez des tweets qui font la promotion d'une voiture et des tweets qui font la promotion d'un compte. Par exemple, des patrons dont la voix va être importante dans le message de l'entreprise. Et bien, on va faire un tweet sponsorisé en disant « suivez le compte ». de Farandou, le patron de SNCF, parce que c'est lui qui va parler. C'était le cas de Luca Di Meo, le patron de Renault. Il s'est fait sponsoriser son compte. Donc, on ne va jamais vous forcer à vous abonner, nous vous suggérer, sans vous prévenir que c'est un tweet sponsorisé pour lequel nous avons reçu de l'argent. Pas beaucoup, hein. Mais sur lequel vous allez vous êtes toujours informé. C'est-à-dire que jamais vous n'avez une information qui vous est poussée sans que vous ayez été averti qu'il y a une rémunération pour cela. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que nous avons interdit, nous sommes la première plateforme à interdire les publicités politiques. C'est-à-dire que la politique, on part du principe qu'un message politique sera entendu s'il est pertinent et que la politique ne doit pas être un jeu d'argent chez nous. Et que donc, on a interdit l'argent politique. Et en plus, pour se défaire aussi du débat, un homme politique promeut une idée fausse. Est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'on ne l'enlève pas? Est-ce que c'est de l'argent, mais etc. Donc nous, on a renoncé. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un peu comme la Chine. Hein. En termes de business, on a renoncé à plusieurs milliards de dollars aux États-Unis à l'occasion de la dernière campagne américaine. C'est un choix. Voilà. Donc la publicité ne se cache pas chez nous. Elle est juste plutôt bien intégrée et plutôt, plutôt très créative. On a des gens qui font de la pub pendant 24 heures. Ils ont des tweets pendant 24 heures. Enfin, c'est vraiment... moi, c'est un plaisir de travailler avec les agences de publicité parce qu'ils sont hyper créatifs. Avec ce temps à l'information que peut représenter Twitter différent par rapport à un média plus classique, d'une chaîne de télé qui met des pubs. Enfin,
voilà, voilà. Nous arrivons donc au terme de cette conversation, puisque c'en était une aussi, sans trop d'intrusion publicitaire, hormis pour une île des auteurs, j'espère, et pour la Biennale du Livre. Merci beaucoup, Damien Viel, de nous avoir livré ce moment. Merci pour cette transparence. Cet exercice de transparence qui nous éclaire un petit peu, tu as charge d'âme aussi, d'adolescent, sur le monde qu'on va laisser... à nos enfants. On voit qu'il faut beaucoup de réflexion, de recul, finalement. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut arrêter de voir ce fil comme étant le censeur potentiel. C'est peut-être à nous, là, de prendre nos responsabilités dans ce qu'on en a à dire et dans ce qu'on en a à y écrire hein, et surtout aussi à y écouter. Les prochaines rencontres auront lieu toujours sous ces arbres. Franchement, la météo devrait s'améliorer. Vous aurez le plaisir de retrouver, je pense, Arnaud Langlois-Mérine pour animer une rencontre avec Pascal Cossard. On va parler du monde invisible, biologie. On va parler de voile peut-être un peu, non? Il s'appelle Benjamin Dutreux. Pas mal, non? Comme programme un peu politique aussi, avec Michel Barnier, vous savez qu'il y a des enjeux importants à venir, peut-être pour lui. On va parler de l'île-Dieu aussi, bien sûr, toujours, on y pense. Michel Bourgerie vient faire cet effort aussi d'explication, de transparence, d'exercice. Il s'occupe entre autres de transition écologique dans l'équipe municipale de l'île-Dieu. Et puis nous terminerons le mois d'août avec la présence de Monseigneur Rézeau. Voilà, donc je pense que ce sera là encore la preuve que le programme est décidément très éclectique, tant pour un lieu, une rencontre, que pour les auteurs que je vous enjoins à venir saluer, préparer, là encore c'est une histoire d'argent un petit peu, mais votre monnaie si vous voulez acheter les livres, parce que c'est compliqué d'avoir un terminal de carte bleue pour acheter les ouvrages. Alors on me fait des signes en régie, donc Virginie me dit aussi... Il faut plier les bancs, c'est ce que me dit la régie, donc j'ai compris. On plie les bancs, on plie le camp. Et puis bien sûr, l'invité majeur de la Biennale, merci Viviane Clem, décidément, je ne serais pas un peu journaliste, mais c'est François et Valentin Morel. Mais oui, le dictionnaire de l'inutile chez Plon, ils viennent le dédicacer et il y a ce formidable petit spectacle qu'ils vont commettre à la ferme d'Émilie juste la veille du 11 août. Voilà, j'ai tout dit. Merci, bonne journée.